Bonjour mes frères et bonjour mes sœurs. Mes bien-aimés, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Et pendant les quelques minutes qui nous sont imparties pour pouvoir la méditer, nous allons voir dans quelle direction le Saint-Esprit veut nous conduire, un peu comme le bon berger qui, connaissant les divers pâturages et connaissant aussi ce qui convient pour les brebis, connaissant aussi, béni soit Dieu, chaque brebis de manière individuelle, connaissant particulièrement la brebis qui est fatiguée, celle qui est lassée, celle qui est découragée, celle qui est blessée, celle qui véritablement est dans l'attente, puisque c'est lui le bon berger qui dirige les brebis, et le bon berger en même temps, c'est lui qui est le Fils de Dieu, qui sonde nos cœurs et nos reins, il pèse les intentions de nos cœurs. C'est celui devant qui tout est nu et découvert. Et c'est lui qui, par sa grâce, un jour est venu pour payer la rançon du rachat de nos âmes. C'est celui qui a tout enduré, qui a tout supporté, mais béni soit Dieu. Dites avec moi, qui a? Ah, merci, Master. Il a tout accompli. Alléluia. Il a tout enduré, il a tout supporté, mais il a tout accompli. Et parmi vous, il y a une petite sœur qui s'est sortie de son cœur avec un ressort. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui a fait cette confession sortir. Il a tout accompli. Jean 19, 30. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Tout est accompli. Que Dieu soit béni et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Alors, cet après-midi, je vous invite à ouvrir avec moi vos Bibles. Nous allons regarder dans le psaume 57. Pour commencer, le psaume 57. Et nous allons voir au verset 9 à 10, la déclaration du psalmiste. Et chemin faisant, le Saint-Esprit va, en même temps qu'il renouvelle notre intelligence et notre esprit, il va éclairer nos cœurs quant à la pensée que Dieu veut nous communiquer cet après-midi. De sa part, de la part de son Fils Jésus-Christ, mais toujours en harmonie avec sa parole. Alléluia. Alors, regardez comment le psalmiste s'exprime. C'est un dialogue qu'il y a entre lui et son âme. Mais, si vous me le permettez, et je sais que vous êtes gentil, vous me le permettrez bien, je vous invite à regarder avec moi à partir du verset 8, où le psalmiste s'exprime ainsi. Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai, Seigneur, parmi les peuples. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations. La raison? Verset 11, car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nuées ou jusqu'aux nuages. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur moi. Que ta gloire soit sur... Donc ça veut dire qu'il n'est pas égoïste. Que ta gloire soit sur toute la terre. Que Dieu soit... béni, et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Ce que nous venons de lire, frères et sœurs en Christ, constitue un peu le résultat de l'intervention de Dieu dans la vie d'un homme qui était dans un moment très, très, très délicat et particulier. L'occasion? Eh bien, l'occasion nous est mentionnée dans les premières paroles du psaume 57, où il est dit ceci au chef des chantres. Ne détruis pas. Hymne de David. Donc c'est un cantique qu'il a composé. Dans quelles circonstances? Lorsqu'il se réfugia dans la caverne, poursuivi par Saül. Quand je suis poursuivi par un ennemi, je ne pense pas à composer un cantique. Oh ben non, je pense plutôt à sauver ma peau. Oui, je sais que vous me direz, mais lui aussi, il était en danger. Et je vous dirais même que sa vie ne tenait qu'à un fil. Mais ce qui est formidable, c'est que dans cette circonstance si particulière, avec un ennemi si cruel, si terrifiant, eh bien, la confiance du psalmiste était entièrement et totalement fondée en l'Éternel son Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi, dans l'expression qu'il fait ressortir de ce que nous avons lu, le verset 8 traduirait un peu, en quelque sorte, ce qu'il a découlé de l'expérience. Ce qui est sorti de ce moment si particulier, où il a vu la main du Tout-Puissant être active pour pouvoir le protéger, le garder, le secourir et enfin le libérer et le délivrer. Au verset 3, il s'exprime ainsi, « Je crie au Dieu très haut qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. » Point virgule, tiret, et nous lisons pause. J'avais dit que derrière ce mot pause, le psalmiste est plongé dans la réflexion. Il a adressé la prière à Dieu, mais là maintenant, il entre en lui-même. Et je crois qu'en entrant en lui-même, à ce moment-là, il doit ressentir quelque chose de particulier. Que le Saint-Esprit prend soin aussi d'accomplir en nous lorsque nous passons par des moments difficiles. C'est que, fort souvent, lorsque nous sommes dans l'épreuve, dans le combat, dans la souffrance, et que dans notre esprit, eh bien, qui est comme un champ de spéculation, l'ennemi pourrait envoyer des flèches qui voudraient un petit peu nous amener à minimiser l'amour de Dieu et sa grâce dont nous sommes les objets. Quand Dieu intervient, il dit, rappelle-toi d'où je t'ai sorti. Et David certainement se rappelait d'où Dieu l'avait sorti. L'expérience qu'il avait faite, déjà lorsqu'il gardait les troupeaux de son père. Comment lorsque se présentait l'ours, le lion, ce qui adviendrait d'eux. Et certainement qu'il se rappelait aussi comment Dieu l'a utilisé pour vaincre le géant qui avait jeté un défi à son peuple. Et comment, chemin faisant, en même circonstance, la main de Dieu a été active dans sa vie. Et s'il y a une chose qu'on peut attacher à David et à sa vie entière, c'est ce que nous appellerons la providence. J'avais coutume de dire la providence divine, mais je disais deux choses pour une même chose. Parce que derrière le mot providence, c'est l'action de Dieu. Dans toutes les circonstances et les étapes de sa vie, il a été au bénéfice de la providence. Alors, puisqu'il est là maintenant dans une situation particulière, et cette déclaration, comme je viens de vous le dire, « Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi », cela veut dire que derrière l'épreuve, ou dans l'épreuve à laquelle je suis bien sorti, ou avec je suis confronté, eh bien, j'en sors grandi. J'en sors affermi. J'ai vu ta main à l'œuvre. Ma confiance a augmenté. Je sais que désormais, tu es pour moi. Alors, tu n'as pas permis que l'ennemi atteigne à mon âme. Voilà pourquoi, eh bien, je bénis ton nom saint et glorieux. Et il mentionne ce qui nous intéresse cet après-midi au premier point. Je te louerai le verset 10. Je te louerai parmi le peuple Seigneur. Je te chanterai parmi les nations, car, dites avec moi, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, et ta fidélité atteint jusqu'aux nues, aux nuages. Et derrière ce que nous lisons, derrière cette parole, je crois qu'il y a, par le Saint-Esprit, une grande ouverture prophétique. Car si la bonté de Dieu atteint jusqu'aux nues, eh bien, nous avons un grave problème. Parce que si c'est au nu, et puis ta bonté atteint jusqu'aux cieux, mais nous, on est sur la terre. Ben oui, si la bonté de Dieu atteint jusqu'au nu, Vous me direz, pasteur gentil, mais s'il dit qu'il atteint jusqu'au nu, ça veut dire bien qu'il sort de quelque part. Mais je crois plutôt que derrière ce qui est mentionné ici, je vais vous le montrer tout à l'heure, dans le psaume 85, nous allons le voir, mais il y a directement quelque chose qui nous ramènerait à la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Ta bonté atteint jusqu'au nu, mais quand les temps étaient accomplis, Dieu a envoyé du ciel son Fils Jésus-Christ. Et quand Jésus est venu sur la terre, quand nous le voyons agir dans son ministère terrestre, littéralement, nous pourrions considérer Jésus-Christ comme un semeur de la bonté de Dieu. Un semeur sorti pour semer. Pendant qu'il jetait la semence, une partie va tomber le long du chemin. Une autre partie va tomber dans les endroits pierreux. Une autre partie va tomber dans les roses et les épines. Mais béni soit Dieu, une partie tombe dans la bonne terre. Est-ce que mon cœur ce matin est une terre où la bonne semence de la parole de Dieu est tombée, doit tomber, mais est tombée. Car si la parole de Dieu est tombée dans mon cœur, eh bien, automatiquement, et que la semence est bonne, la terre est bonne, il peut avoir que du fruit. Un grain va porter 100, l'autre va porter 60, et l'autre va porter 30, et si je porte du fruit, dites avec moi, Dieu sera glorifié. Alléluia, Jésus m'a rappelé que si je porte beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et, frères et sœurs en Christ, il y a une particularité dans l'action du Saint-Esprit dans le cœur de l'enfant de Dieu que je suis, que vous êtes, que nous sommes, c'est de nous amener constamment à glorifier Dieu. Non? Mais lisez ce qui est mentionné dans ce cadre-là, dans 1 Corinthiens 6:19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix? Alors à cause de cela, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et vous remarquerez qu'il n'a pas dit glorifiez Dieu dans votre esprit et dans votre corps. Non, ça part de l'extérieur pour aller vers l'intérieur. Je l'avais dit que frère et sœur, selon l'état de mon esprit, associé avec le Saint-Esprit, eh bien, je vais être en action. J'aurai le témoignage extérieur, ce soit dans ce que je sors de ma bouche, de l'abondance de mon cœur, ma bouche parlera. Selon l'état de mon esprit, aussi je serai actif. Je bénirai Dieu. Et vous ne verrez jamais de la bouche du pasteur gentil sortir une parole négative. Et ce, depuis mon enfance spirituelle, le Saint-Esprit a banni de mon cœur les paroles négatives. Voilà pourquoi j'entraîne celui qui s'appelle enfant de Dieu, même si on passe par des moments difficiles, bannis le négatif. Parce que Jésus n'a jamais donné de paroles négatives dans son ministère. Et si je suis rempli du Saint-Esprit, ce sera le même principe applicable en moi. Oh, je sais que je ne suis pas Jésus, je ne le serai jamais. Mais quand son esprit habite en moi, et qu'il me conduit dans la marche chrétienne, en relation avec lui et en communion avec le Père Céleste, je sais que les légères afflictions du moment présent ne sauraient être comparées au poids du gloire éternelle qui nous est réservé dans les cieux. Je sais que plus je vais m'attacher à mon Sauveur, plus je vais manifester dans ma qualité d'enfant de Dieu des actes de piété. Jésus m'a appelé que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est pas étrange, c'est normal, mais c'est pas simplement quelque chose que je vis en mourant. J'ai une optique et j'ai compris depuis longtemps que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mais ça, c'est le pasteur gentil qui s'exprime par rapport à ce que Dieu lui permet de vivre. Je veux pas dire que tout le monde est pareil, mais mon travail pastoral, c'est de ne pas vous donner de paroles négatives qui seraient le résultat de raisonnements négatifs, de pensées négatives. Bannis ça à l'intérieur. Parce que je n'ai jamais vu la foi avoir des paroles négatives. Jamais. Vous me croyez pas? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. L'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage plus excellent. Frères et sœurs en Christ, vous connaissez l'apôtre Paul? Oui, nous connaissons bien. Et si nous regardons dans l'épître de Paul à Timothée, il va donner des paroles qui ressemblent fortement à une espèce de bilan qu'il peut faire de son engagement pour le service de Christ. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. C'est beau. Je n'ai pas gardé les miracles. Je n'ai pas gardé le fait d'avoir été ravi au troisième ciel. Je n'ai pas gardé toutes les expériences que j'ai faites avec mon Dieu. Ça, c'est fait. Mais ce que j'ai gardé, c'est la foi. J'ai gardé la foi. Alors, à cause de cela, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce temps-là. Mais non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et quand vous regardez un petit peu les péripéties qu'il a connues, lutte au-dedans, crainte au-dehors, combat par-ci, combat par-là, tribulation que lui causaient les églises, et toutes sortes de difficultés qu'il devait gérer. En prison, il envoyait des lettres. Mais la main de Dieu a toujours été avec lui. Vous connaissez Néhémie? Vous connaissez Néhémie, frères et sœurs en Christ? Eh bien, écoutez, Néhémie, il est en déportation. Mais il apprend que les murailles de Jérusalem sont en ruine. Les portes sont consumées par le feu. Et au lieu de dire maintenant ils sont là, qu'ils se débrouillent, non. Il prend à cœur la situation du peuple de Dieu. Et lorsqu'il prend à cœur la situation du peuple de Dieu, comment faire? Il est en déportation et là où il a une mission des chansons qui consiste à mettre la coupe de vin dans la main du roi. C'est son poste et il faut qu'il soit constamment à son poste. Alors vous savez ce qu'il a fait? Il a commencé par prier, jeûner, pleurer, etc. Mais comme il y a un temps pour tout, alors il est allé trouver le roi pour lui demander des lettres de créance afin qu'il se rende là-bas pour pouvoir eh bien prendre en main les choses, pour réparer les murailles de Jérusalem. Et vous savez comment il s'est exprimé? Eh bien, il va dire que les choses vont réussir. Pourquoi? Parce que la bonne main de mon Dieu était sur moi. Oh, il a connu de l'opposition. Mais les détracteurs n'ont pu que constater que les travaux avançaient et que la muraille commençait à se reconstruire. Oh, il y avait des ennemis du dehors. Mais aussi, il y avait des ennemis du dedans. Chacun avait une action consistant à arrêter les travaux. Mais non seulement Néhémie s'est engagé, mais lorsqu'il a rapporté ce que Dieu avait mis dans son cœur de faire, eh bien, ceux qui l'ont entendu, la Bible dit, se sont fortifiés dans cette bonne résolution. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, lorsqu'un homme se lève et que la main de Dieu est sur lui, il y aura des ennemis. Il y aura même des détracteurs, mais Dieu va s'en occuper lui personnellement. Et celui qui est appelé, que Dieu a mis de côté, la bonne main de Dieu sera sur lui de telle manière que Dieu le fera prospérer. Il ira toujours plus loin. Et même quelquefois, le Seigneur permettra que ses détracteurs, Dieu les envoie, et que ce soit lui qui soit un instrument dans la main de Dieu pour les secourir. Il n'y a pas un qui dira amen. Eh oui, vous êtes concentrés, c'est bien. Non, mais bien aimé, écoutez ce que je vous dis là, c'est pas ce que j'ai entendu dire, hein. Parce que moi, personnellement, pasteur gentil dans cette assemblée, je l'ai vécu. Oh, je suis pas là pour tout vous raconter, mais si vous saviez. Mais vous saurez pas. Parce que il y a des choses qu'on se garde de rapporter parce que même certains d'entre vous ne sont pas au niveau spirituel pour pouvoir le supporter. Mais béni soit Dieu. Ces choses-là, moi personnellement, je parle de moi, hein, je m'en souviens comme des eaux écoulées. C'est passé, c'est derrière moi ça. Parce que quand Dieu a un plan pour la vie d'un homme et qu'il met son plan en œuvre, vous voyez que j'ai pas dit malheur à celui qui met sa main de chair. Mais Dieu, lui, sait mettre chaque chose à sa place. Bénissons-le, frères et sœurs en Christ. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et s'il a pris soin de dire, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Alors, s'il parle des portes du séjour des morts, à quand bien plus forte raison ceux qui voudraient s'y opposer? Faisons confiance au Seigneur. Et au lieu de dire, Seigneur, fais tomber sur lui ton jugement, non. Seigneur, bénis-le. Éclaire-le. Jamais dans ma bouche, je demande à Dieu de juger quelqu'un. Non. Je demande à Dieu de le bénir. Pourquoi? Parce que c'est ça que Jésus m'a demandé. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous font du tort. Ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Et le jugement, ça va très vite, hein. Dès que les choses ne vont pas dans le sens que nous voudrions, hop! Ah! On juge. Et nous oublions fort souvent que Jésus nous a dit de ne pas juger. Qui es-tu, toi qui juges le serviteur d'autrui? S'il reste debout ou s'il tombe, c'est l'affaire de son maître. Mais il restera debout parce que son maître a le pouvoir de l'affermir. Vous l'avez pas lu, ça? Ah, mais moi, je l'ai lu. Alors, quand je le lis, je me soumets à ce que dit l'Écriture. Le psaume 36, verset 1er. Alléluia. Oh, frères et sœurs en Christ, notre Dieu est bon. Et lorsqu'il nous parle, eh bien, tiens, je suis en train de vendre la mèche, là. De sa bonté. Quand il nous parle de sa bonté, c'est pas simplement des mots. Mais il y a toute une palette, eh bien, de possibilités qui vont s'ouvrir quand Dieu manifeste sa bonté. Savez-vous que la bonté de Dieu, fort souvent, est un dérivé de sa grâce? Savez-vous que la bonté de Dieu est fort souvent, eh bien, le résultat qui en découle, c'est la manifestation de sa miséricorde, qui consiste à s'arrêter sur le besoin de son enfant, de l'homme, de l'être humain? Savez-vous que la bonté de Dieu, fort souvent, eh bien, est accompagnée et manifestée par sa compassion, qui n'est pas autre chose que pour lui le fait de s'arrêter sous la souffrance de son enfant? Et nous pourrions prendre tellement de paramètres, parce que la bonté de Dieu, c'est comme une source inépuisable. Mais vous allez voir qu'elle a trouvé sa pleine mesure en la personne de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, allons-y. Oh, qu'est-ce que le temps passe vite. Ah, mais j'ai le temps, mais ça va. Il est quelle heure, là? 4 heures, moins. Ah, ben, ça va. Ça va, béni soit Dieu, j'ai encore près de 20 minutes. Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur, tu tiens le temps, s'il te plaît. Écoutez, Dieu a bien tenu le temps, hein. Pour Josué, il a tenu le temps, hein. Soleil arrêtera sous Gabaron et lune sous la vallée d'Ajalon. Mais Dieu a arrêté le temps jusqu'à ce que son peuple ait la victoire. Il a bien retiré les degrés concernant le roi Ézéchias, n'est-ce pas? Écoutez, Dieu, c'est pas un Dieu de miracle, hein. Mais Seigneur, arrête le temps, s'il te plaît. J'ai pas dit, Seigneur, je plaisante, hein. Non, avec Dieu, on ne plaisante pas. Mais qui me donne à être dans la tranche qu'il veut. C'est lui qui dirige. Mais regardez avec moi le psaume 36. J'ai dit verset 1er. Verset 2, puisqu'il n'y a pas de verset 1er. C'est toujours David. David composait les cantiques, et après, il les donnait au chef des chantres. Faut souvent, il s'appelait Jédudin, et Jédudin les mettait en musique. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 2? La parole impie du méchant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle résonne au fond de mon cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. La parole impie du méchant résonne au fond de mon cœur. C'est quand même étrange. Il a entendu une parole de la bouche du méchant. Et puis il a entendu la parole et puis il est parti. Mais s'il est parti, la parole l'a accompagné. Et si la parole résonne au fond de son cœur, c'est parce que la parole est entrée dans son cœur. Donc si c'est arrivé à David, je ne serai pas épargné, ni toi non plus. Mais après, il faut savoir gérer. Ah! Après, il faut savoir gérer. Et c'est là qu'intervient le travail du Saint-Esprit, le travail de la foi et le travail aussi de la connaissance que j'ai des Saintes Écritures. La parole impie du méchant résonne au fond de mon cœur. Et quand une parole résonne au fond de votre cœur, l'ennemi a cette particularité, c'est de faire en sorte comme si c'est un disque rayé. Ça tourne en boucle. Ça part, ça revient, et ça s'installe. Et comme une perturbation, eh bien, c'est un peu ce qui se passe lorsqu'on met en évidence le processus de la dépression. Écoutez, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre, mais je connais un peu comment les choses se passent. Ça revient constamment, ça travaille. Vous êtes en train de faire la vaisselle, mais ça travaille à l'intérieur. Vous êtes dans votre voiture, vous conduisez, hop, la même pensée. Et elle s'installe jusqu'à ce qu'elle commence à vous perturber. Et tellement qu'elle vous perturbe, elle va vous couper le sommeil. Vous coupant le sommeil, c'est pas tout. Elle va vous plonger dans l'inquiétude. Plonger dans l'inquiétude, ce sera une spéculation dans votre esprit qui progressivement va ouvrir une brèche vous conduisant à l'angoisse. Mais bien sûr. Sauf si la foi se met en évidence. Et que par le Saint-Esprit, la foi vous amène aux promesses de l'Écriture. Et que vous surmontez la boucle qui tourne par une parole de la Bible. Mais c'est ce que nous allons voir. Verset 6. Donc, nous avons vu, au prime abord, ce qui était la situation dans laquelle il se trouvait. La parole impie du méchant résonne au fond de mon cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Puis il va donner une description le concernant. Mais au verset 6, voici qu'il s'adresse à Dieu. Éternel, quoi? Ta bonté atteint jusqu'aux cieux. Et ta fidélité jusqu'au nu. C'est ce qu'il a dit, répété tout à l'heure dans le psaume 57. Verset 8. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu? À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Alléluia. Ça veut dire que même si la parole impie du méchant résonne dans son cœur, il sait où se réfugier. Cela dénote que malgré le fait que la parole impie du méchant résonne dans son cœur, ça n'enlève en rien sa communion avec son Dieu. C'est le refuge, c'est le lieu secret de la communion. Frères et sœurs en Christ, il y a un seul endroit où on ne peut pas jouer la comédie. C'est dans la vie chrétienne. On ne peut pas jouer la comédie. Oh, je sais que lorsque Dieu a envoyé son serviteur Samuel dans la maison d'Isaïe pour choisir celui qui devait succéder à Saül, que Dieu avait rejeté. Dès lors que Samuel a vu Eliab, vous savez ce qu'il a dit? Certainement, loin de l'Éternel est devant moi, c'est lui. Parce qu'il a vu la prestance, il a vu l'allure, il a vu maintenant le gabarit, eh bien, il a pensé que un tel homme ferait un bon roi. Mais avant qu'il n'ait plus l'un dans sa réflexion, Dieu est intervenu. Ne prends pas garde à sa taille, à sa prestance, à tout ce que tes yeux voient. Pourquoi? Parce que le regard de la chair, forcément, est trompeur. Et rapidement, le regard de la chair qui est trompeur nous amène à une déduction hâtive, mais qui est fort souvent erronée. Dieu dit, je l'ai rejeté. Dieu les rejetait. Et Dieu rajoute, l'homme regarde à ceux qui frappent les regards. Mais l'Éternel regarde. Oui, c'est vrai de dire l'Éternel regarde au col, mais n'oublie pas que cet après-midi, n'oublie pas que cet après-midi, l'Éternel regarde à ton cœur, à mon cœur, à nos cœurs. Et qu'est-ce qu'il veut trouver dans nos cœurs? Quelle place nous avons donnée à Jésus-Christ? Quelle place à le Saint-Esprit? Quelle place à sa parole accompagnée de ses promesses? Combien précieuse ta bonté, verset 8, ô Dieu, à l'ombre de tes ailes, le Fils de l'homme cherche un refuge. Verset 11. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent, et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Alléluia. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent. Et cet après-midi, frères et sœurs en Christ, quand je lis cela, étends ta bonté sur ceux qui te connaissent, c'est vrai, David l'a sorti de sa bouche. Mais ceux qui connaissent Dieu cet après-midi, je les ai devant moi. C'est à vous que cette parole est destinée. C'est à nous. Nous connaissons Dieu. Et vous savez comment nous le connaissons? Ou par quel moyen? Ou qu'est-ce que Dieu a fait pour que je puisse le connaître, lui? Il a pardonné mes péchés. Il a pardonné mes péchés. Il a permis qu'en Jésus-Christ, j'expérimente son salut. Et en expérimentant son salut, moi, vous, nous qui étions loin, nous avons été rapprochés. Nous qui étions sans espérance et sans Dieu, nous avons Dieu maintenant comme notre Père, et par l'expérience de la nouvelle naissance, nous avons reçu de sa part une espérance vivante. Vous savez, quand la Bible nous dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, nous aurions peut-être cette tendance à dire oui, pasteur, ou oui, la parole de Dieu dit que j'ai tout pleinement en Jésus-Christ, mais quand je regarde ma vie, il y a ça qui manque, il y a ça qui manque. Mais la liste de ce qui manque serait tellement longue à considérer, parce que tu regarderais la liste uniquement sur le plan humain. Mais Dieu n'a pas cette considération-là. Quand il dit tout pleinement, c'est non seulement tout ce qu'il a envoyé du ciel au travers de Jésus-Christ, qui nous est révélé dans les Saintes Écritures, que le Saint-Esprit va authentifier dans nos cœurs, dans lequel nous sommes plongés pour que ça devienne en nous une parole vivante, il va nous donner maintenant à vivre par elle. Et quand je vis par les promesses de Dieu, eh bien, certes, ici-bas, il y aura des choses que Dieu ne m'accordera jamais, parce qu'il estime que c'est pas ce qui est compris dans son plan pour ma vie. Mais laissez-moi vous dire que tout ce qu'il veut que je possède par Jésus-Christ, le Saint-Esprit m'amènera à y adhérer, à y entrer, à le recevoir, à le garder, et à ce moment-là, il va me donner à le pratiquer. Dans ce domaine-là, frères et sœurs en Christ, vous comme moi, nous aurions toujours des lacunes, parce qu'un seul a pu faire toute la volonté du Père parfaitement, c'est notre Seigneur. C'est pourquoi nous l'adorons, nous le bénissons, et nous lui rendons grâce. Que Dieu soit béni, et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Donc, le dernier texte. Le dernier texte, mes bien-aimés, je vous amène à le trouver avec moi. Oh, j'en ai tellement à vous donner, mais je vais essayer de synthétiser comme je vous ai dit. Et je vous amène au psaume 85. Hein? Et ce sera notre dernier partage pour aller prendre la Sainte-Cène tout à l'heure. Que Dieu soit béni. Alors. Mais, avant d'arriver au verset 11 qui nous intéresse, regardons le verset 2. Ce psaume, c'est un psaume des fils de Corée. Et c'est une prière adressée à Dieu, la prière des rescapés de l'exil. Pour ceux qui revenaient de l'exil, ce sont eux qui ont adressé à Dieu cette prière. Et cela est rapporté par les fils de Corée et consigné dans la parole de Dieu. Il s'exprime déjà au verset 2. Qu'est-ce qu'il dit? Tu as été favorable à ton pays, ô Éternel. Tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Et moi, quand je lis ça, frères et sœurs en Christ, c'est extraordinaire. Et vous serez d'accord avec moi parce que la parole de Dieu, elle est merveilleuse. Je ne vous apprends rien. Mais mon travail pastoral, c'est de vous l'expliquer. Il commence par dire, tu as été favorable à ton pays. Ah. Et quand je lis ça, quand je lis cette parole, je comprends tout de suite qu'il y a une ouverture prophétique. Tu as été favorable. N'est-ce pas? Vous avez compris tout de suite. Tu as été favorable. Or, la grâce est une... Ah, il y a déjà là une ouverture qui m'amène à la manifestation de la grâce. Tu as été favorable. Favorable à qui? Tu as été favorable à ton pays. C'est-à-dire que tu as fait la grâce à ton pays. Et en faisant la grâce à ton pays, tu as ramené les captifs. Mais là, je vous amène avec moi dans la portée spirituelle. Vous me suivez toujours? Tu as ramené les captifs de qui? De Jacob. Pourquoi ne dit-il pas les captifs d'Israël? Il dit de Jacob. Eh bien, la réponse est dans la suite. Parce que Jacob nous parle de la nature humaine, avec ses complexités, avec ses entourloupes, avec tout ce qui est le résultat du travail du péché dans l'être humain. Avant d'expérimenter la nouvelle naissance, le péché dominait sur nous. Et nous étions en droit de subir toutes les conséquences qui en découlaient. Tu as ramené les captifs de Jacob. Et aussitôt, la grâce, tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Et tu as couvert tous ses péchés. Nous sommes sur le temps de la loi. Ce sont pour que l'homme reçoive le pardon, les sacrifices du Lévitique qui sont en vigueur. Et il y a des obligations, des choses que Dieu a instituées qui ne peuvent pas être bougées. Mais là, c'est pourquoi je vous dis qu'il y a une portée prophétique. Et je vais vous l'expliquer en profondeur. Parce que moi, je ne balance pas les choses comme ça s'il n'y a pas la révélation de l'Écriture. Alors, où se trouve la révélation? Donc, la prière a été adressée. Au verset 8, voici la requête de prière. Je vous ai montré la grâce sous forme prophétique. Mais maintenant, il y a une prière. Verset 8, Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. Alléluia. Donc, quand tu nous fais voir ta bonté, quand ta bonté se manifeste, c'est la révélation du salut qui est montrée. Or, le salut est en qui? Ah, vous savez pas en qui est le salut? Mais vous me le dites avec tellement de mollesse. Le salut est en qui? Ah, mes bien-aimés, le salut est en Jésus. Mais ça devait bondir dans le cœur. Ça devait jaillir comme un ressort qui n'est plus comprimé ou s'exploser par la bouche. Le salut est en qui, hein? Alléluia. En Jésus-Christ. Ça, le diable n'aime pas que nous confessons Jésus. Il n'aime pas que nous disons ce qui est conforme à l'Écriture. Il n'aime pas ce que nous disons ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Mais cet après-midi, nous confessons que le salut est en Jésus-Christ et en personne d'autre. que j'ai affiché hier quand je faisais l'enterrement. Le salut est en Jésus-Christ. Et si vous n'avez pas de Jésus-Christ, vous arrivez devant les portes de l'éternité dans la plus grande des confusions. Mais, si tu as été favorable à ton pays, ô Éternel, si tu as ramené les captifs de Jacob, si tu as pardonné l'iniquité de ton peuple, accorde-nous, Éternel, fais-nous voir ta bonté, accorde-nous ton salut. Alors, le verset 11, c'est un peu une déclaration prophétique aussi, qui est comme une réponse à la manifestation de l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde, alléluia, qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, verset 11, la bonté et la fidélité se... Alléluia! La bonté et la fidélité se rencontrent où? Prophétiquement, la croix du calvaire. Croix du calvaire, la bonté et la fidélité se rencontrent. Mais en même temps, la justice et la paix s'embrassent. Alléluia! C'est-à-dire, il y a comme une réunion, une union, une manifestation d'ensemble à la croix du calvaire, où la justice et le jugement de Dieu se sont rencontrés. Jugement, c'est ce qui est tombé sur Jésus à ma place. Justice, eh bien, la justice de Dieu est satisfaite. Pleinement. Tout a été réuni. Pourquoi? Parce que la bonté et la fidélité se sont rencontrées et la justice et la paix se sont embrasées. Désormais, eh bien, le Saint-Esprit peut amener l'apôtre Paul à écrire et à déclarer dans Romains 5:1. Ainsi donc, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. C'est ce qui découle de la rencontre. N'est-ce pas là la manifestation de la bonté de Dieu à notre égard? Et nous verrons la prochaine fois, frères et sœurs, comment, derrière ce que nos yeux ne voient pas, ce que nos oreilles n'entendent pas, Dieu a tout prévu. Mais Jésus est venu tout régler. Et qui sont les bénéficiaires cet après-midi? Nous qui sommes ses enfants. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur, mes bien-aimés.